Victor a 4 mois. Il vient d'arriver dans le service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker, dans le 15e arrondissement de Paris.
Côté, va commencer le bras, la jambe et le visage. On l'endort.
Il convulse, donc on va le mettre sous plateau, on va l'endormir complètement. Hein.
Et il a un cri aigu parce qu'il doit avoir mal à la tête. Il est vraiment pas bien. Mais sinon, il est très mou, il réagit pas, il demande rien. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas normal.
Il y a quelques heures, Victor a été pris d'un brusque malaise chez sa nourrice. C'est en urgence que le SAMU l'a conduit à Necker.
J'ai pas au téléphone. Ah, je lui ai dit de rappeler vers 22h, mais il insiste.
Bon, bah attends, je vais lui parler là, je
suis pas d'accord. Ouais, tu peux ?
D'accord. Bah oui, puisqu'on a fini de quitter.
Ok. On va se remettre après.
Depuis l'hospitalisation de Victor, son père appelle régulièrement le service pour avoir des nouvelles de son fils.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur, c'est le docteur Perrier que vous avez vu tout à l'heure.
Voilà. Donc, on vous a dit qu'on avait endormi...
Oui, oui.
Il a refait une crise convulsive clinique, puisqu'en fait, à l'électroencéphalogramme, il ne semblait pas y avoir de crise. Mais,
Il était très anémique, hein, donc on va le transfuser. Là, on était en train de commencer la transfusion. Et puis, maintenant, on part dans une réanimation lourde.
Chaque année, 150 bébés comme Victor sont admis ici en urgence. Tous sont victimes de secousses violentes, occasionnées par des gestes incontrôlés, sans nécessairement intention de faire mal. On les appelle les bébés secoués. Quelques heures plus tard, les parents de Victor arrivent en réanimation, accompagnés du médecin de garde.
Donc il respire par ça ?
C'est la machine, là, oui, qui le fait respirer.
Il est mort,
en fait. Non. Il n'a pas de... Il n'a pas de commande cérébrale de sa respiration. Donc, c'est parce que son cerveau est complètement au repos. C'est comme une anesthésie. Quelqu'un qui est anesthésié n'est pas mort. Il est, son cerveau ne fonctionne plus de façon habituelle, ne commande plus. Donc, on est obligé de prendre le relais par l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. Pour l'instant, c'est trop tôt pour vous dire que tout va se passer très, très bien. On pourra le dire que quand on le constatera. Mais on lui donne toutes ses chances.
Ici, on ne fait pas que soigner des bébés victimes de traumatismes inexpliqués. On cherche à comprendre. Dominique Régnier est neurochirurgien dans ce service. Il y a 5 ans, il a monté avec son équipe une cellule enfance maltraitée, afin de repérer les familles à risque et les enfants en danger.
Ça fonctionne de deux côtés pareil. Hein.
Leur expérience montre que secouer un enfant provoque des saignements dans la tête qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur le cerveau d'un nourrisson.
Pour faire un hématome, il faut secouer le bébé comme ça, très violemment, avec la tête qui ballotte comme ça, très violemment, et peut-être même les lâcher qui a un impact sur le lit ou sur le matelas un peu dur. La plupart du temps, ils sont couchés, ils pleurent, ils vont pas bien, ils ont une otite, et on les prend. Mais arrête-toi de pleurer, bon Dieu de bois !
Contrairement aux idées reçues, les 5 années d'expérience de cette équipe médicale montrent qu'en matière de maltraitance, tout le monde est concerné et personne n'est à l'abri.
Ça peut arriver à tout le monde dans la mesure où n'importe qui peut avoir un moment de fatigue, un moment de déprime, un moment de colère et secouer son enfant. Et n'importe qui peut le faire. Aussi bien la mère, le père, l'oncle, la tante, la grand-mère, la nourrice. N'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais il y a des éléments de risque. Ce sont justement les éléments qui font qu'on peut craquer. Un problème personnel, une histoire un peu lourde, une difficulté dans le travail, une difficulté sentimentale, un souci quelconque, un problème médical. Tout ce qui fait baisser la garde psychologiquement est un facteur de risque.
Tous les jours, l'équipe médicale se retrouve en réanimation. Médecins, infirmières et assistantes sociales se transmettent les informations sur chaque enfant malade. Ce matin, Philippe, anesthésiste-réanimateur, et Carole, assistante sociale, font le point sur l'état de santé du petit Victor, arrivé la veille.
Il a toutes les chances d'avoir largement abîmé son cerveau et puis d'avoir un pronostic de développement extrêmement mauvais. Hein. Parce que la persistance des convulsions, le fait que ça résiste à la thérapeutique, ça c'est extrêmement, extrêmement mauvais. Hein. Donc on n'est pas bien parti.
Et toi, t'as pas vu les parents?
Non, je les ai... C'est pas très bien ce qui s'est passé avant qu'il arrive ici.
C'est un enfant gardé?
Je sais pas si c'est un enfant gardé.
Le domicile par une nourrice.
C'est ça, le domicile par une nourrice, oui.
Ça va être très très compromis cette affaire.
Ok.
On va voir, mais. L'électro qu'il a eu ce matin, en plus, était. Très favorable. Dans la majorité des cas, on sait bien entendu qu'il y a un problème qui n'est pas très net, mais il ne faut pas non plus avoir une idée a priori et se dire c'est effroyable, c'est un enfant secoué. Ça passe au second plan avant la thérapeutique urgente et puis après, bien entendu, il est nécessaire de voir ce qui s'est passé.
À chaque traumatisme, le scénario est pratiquement identique. Personne ne raconte ce qu'il s'est passé. Aucun récit, aucune explication. Et c'est justement ça qui éveille l'attention des médecins. Quelque chose manque. Les assistantes sociales sont là pour évaluer les situations et démêler les faits. Ce matin, Carole est au téléphone avec la nourrice d'un autre bébé, le petit Louis. Un bébé qui est arrivé en début de semaine. Les premières interrogations commencent.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est passé le malaise? Vous le gardiez depuis quand, madame? Vous entretenez de bonnes relations avec les parents?
Non. Y'a?
D'accord. Vous êtes agréé depuis combien de temps?
Bien sûr, oui, mais...
Les questions qu'on pose, que j'ai par exemple tout à l'heure à la nourrice, mais on pose les mêmes aux parents sur l'alimentation, le sommeil, l'attitude générale de l'enfant sont importantes parce que, effectivement, il y a les soucis qui peuvent être financiers, la fatigue, etc. Il y a aussi, par exemple, un enfant qui mange mal. Au bout d'un moment, ça excède parce qu'on n'arrive pas à le nourrir. Et en plus, pour une mère, c'est difficile de ne pas arriver à nourrir son enfant. Il y a le sommeil, il y a un enfant qui ne dort pas, qui pleure beaucoup, qui est énervé. Ben, au bout d'un moment, encore en journée, ça va passer. Mais encore, si une nourrice, elle a plusieurs bébés, on imagine au bout d'un moment comment ça peut se passer. Mais un enfant qui ne dort jamais la nuit, qui pleure beaucoup, pareil, il va pousser vers une situation dramatique.
La culpabilité, moi, que je vis dans les entretiens des parents, elle se traduit déjà par une agression envers nous. Je pense que quand ils sont agressifs envers nous, c'est un sentiment de culpabilité qu'ils témoignent là. Parce que souvent, je leur dis, et je le pense encore beaucoup, ils sont responsables de leur enfant. Mais responsable, ça ne veut pas dire accusé.
Et l'histoire de ce bébé en témoigne. Le petit Louis, c'est lui. Arrivé il y a 8 jours, il présentait un tableau clinique typique d'un enfant secoué. Aujourd'hui, il se porte bien et il est hors de danger. Malgré cela, les médecins le gardent en observation pour surveiller son état de santé, mais aussi pour tenter de reconstituer son histoire.
Je voulais vous dire que j'avais eu la nourrice. Et elle m'a expliqué qu'après le malaise qu'il a fait, où il a visiblement convulsé, donc ça c'était 4 jours avant qu'il soit hospitalisé, elle a appelé son médecin qui lui a dit de le secouer. Donc il a été secoué, elle dit pas violemment, mais il a dû quand même secouer pour le réanimer. Oui. Et elle dit, s'il s'est passé quelque chose, c'est chez les parents.
Bonjour mon grand. Bonjour mon tout.
Depuis l'hospitalisation de son fils, le papa de Louis vient le voir tous les jours à l'heure du déjeuner.
Avec sa mère, on se sent effectivement parfois dans une position d'accusé. C'est-à-dire qu'on sent plus une présomption de culpabilité qu'une présomption d'innocence. Sur le principe, je n'ai rien à redire. C'est pas marqué sur ma tête que je suis pas un bourreau d'enfant et que je joue pas la comédie et que rentrer à la maison, je vais le cogner à coups de tisonnier. C'est pas... Je veux dire, c'est normal de... Mais de le prendre pour une hypothèse. C'est ça que... Il y a quand même une différence qui peut être un petit peu subtile. On souhaiterait que notre honnêteté à ne pas savoir ne se retourne pas contre nous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme ? Hein ? T'es mignon, mon fils.
Pour savoir si Louis a été secoué volontairement et malgré un état de santé satisfaisant, les médecins ont décidé de lui faire une radio complète du squelette. Ils soupçonnent une fracture, mais ils n'en sont pas certains. Ils ont convoqué les radiologues pour avoir leur avis.
On a un excellent contact avec la famille et qu'on est inquiet en rien du tout. Il est gardé par une nourrice qui, apparemment, est au-dessus de tout soupçon pour avoir déjà gardé les deux autres et très très bien connaître les parents. Mais voilà-t-il pas que nous arrive un compte-rendu du squelette complet systématique avec fracture des deux os de l'avant-bras gauche. Et là, j'ai besoin de votre expertise, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est une fracture ?
Oui, il y a des trucs sur les deux os.
Oui ? C'est comme une fracture tassante ?
Non, je crois.
Mais moi aussi.
Bon.
Mais c'est qu'il y a eu un traumatisme. Parce que personne ne le raconte, alors qu'il n'y a que trois personnes qui le gardent. Le père, la mère et la nourrice. Donc il y a quelqu'un qui ne raconte pas quelque chose.
On appelle les fractures en mode de bleu.
C'est pas un bleu, c'est une fracture. Donc, et une fracture qui, si, comme toutes les fractures, a occasionné certainement des douleurs pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc au pire, c'est parce que le traumatisme n'est pas avoué. Et à la limite, au bénéfice du doute, c'est parce que la surveillance n'est pas tellement vigilante et que personne ne s'est rendu compte que cet enfant avait en fait très très mal au poignet depuis plusieurs semaines.
Mais la radio est difficile à interpréter. Certains radiologues émettent un doute. Sur de si petits membres, les erreurs sont possibles. Il semble que ce soit une fracture, mais ils n'écartent pas l'hypothèse d'une tumeur bénigne ou d'un tassement d'os.
Non, non,
Dominique Régnier attend leur décision.
Est-ce que tu te vois voir ses parents, puisque vous avez un très bon contact avec eux ? Leur dire, messieurs, dames, il y a une lésion sur le poignet de votre enfant.
On l'a déjà dit.
On l'a déjà dit. Et alors ?
Ils sont catastrophes. Mais ça leur évoque rien de plus de leur avoir dit ça. Les filles, c'est vachement important. Le signalement judiciaire en dépend. S'il y a une fracture, on fait un signalement. Alors qu'on avait décidé de ne pas le faire.
La décision est importante, car au moindre soupçon de maltraitance, la loi impose de faire un signalement judiciaire. L'hôpital a l'obligation de rédiger un rapport au procureur de la République pour que le parquet des mineurs déclenche une enquête de police. Mais ici, la situation est parfois plus complexe. Selon les cas, l'équipe médicale interprète la loi. L'histoire de Louis n'est pas claire. Le diagnostic des radiologues n'étant pas formel, les médecins ont du mal à se faire une opinion.
Si on additionne tout, hématome sous-dural, plus hémorragie au fond d'œil, plus une fracture du bras, de l'avant-bras, normalement ça doit aboutir au signalement, à l'évidence. Le problème c'est que cette fracture de l'avant-bras n'est pas sûre et certaine, on ne peut pas le jurer. C'est là où on est à la frontière de ce qui est rationnel, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est objectif, de ce qui est subjectif.
Par rapport à la décision, de toute façon, il y a toujours un risque de laisser sortir un enfant. On ne peut jamais être sûr, même si l'enquête a dit « bon, les parents n'ont rien fait ». Il y a toujours un risque. C'est pas parce que les parents disent « on n'a rien fait » que forcément ils n'ont rien fait. Donc, quoi qu'il arrive. Moi, il y a une seule situation où je me souviens où on a laissé sortir l'enfant et il est revenu avec de nouveau... fracture, hématome subdural, mais sinon ça n'est jamais arrivé, seulement une fois.
Quand je dis qu'il n'y a aucune classe sociale n'est à l'abri de secouer son enfant, c'est pas une théorie, c'est une observation pratique. On a vu des avocats, des pharmaciens, des médecins, des conseillers de ministres. On a vu des gens qui étaient a priori au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire que l'image qui consiste à penser que ce sont les chômeurs, les alcooliques, les drogués, les défavorisés qui se coupent plus leurs enfants que les autres, est fausse.
Les médecins ont annoncé à la maman de Louis qu'il pouvait quitter l'hôpital cet après-midi. Avant le départ, elle doit passer un dernier entretien. Le docteur Hirsch et Carole, l'assistante sociale, ont un discours franc et ne lui cachent rien.
On ne sait toujours pas pourquoi il a cette hématome.
Moi non plus, de toute façon.
Non, mais c'est pour ça aussi qu'il faut peut-être quand même discuter un peu de la mode de garde de l'enfant.
Mm-hmm. Est-ce que, à quoi vous avez, enfin, comment vous avez réfléchi par rapport à ça?
Ah, je ne change pas. Je ne change pas de mode de garde.
Vous voyez, quelque part, ça, moi, ça me heurte, mm-hmm. parce que vous, vous pouvez être sûre de vous-même par mm-hmm. rapport aux gestes que vous avez pu faire avec l'enfant, mm-hmm. que ce soit vous, votre mari, mm-hmm. ou les enfants. Mais vous ne pouvez pas être sûre à 100% qu'il ne soit rien passé avec elle.
Je ne peux pas dire si c'est rien passé chez moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le jurer. Mmh. Je ne suis pas plus chez moi que chez la nourrice. Je n'ai pas plus de...
Elle a un discours qui est que si c'est passé quelque chose, ce n'est pas chez moi, c'est chez les parents. Donc ce qui est sûr, c'est que moi, je vais faire un rapport à la protection maternelle infantile mm-hmm. donc de votre quartier.
Bon, pour le moment, on a décidé de ne pas faire de signalement judiciaire.
Mm-hmm, d'accord.
Dans la mesure où on veut vous faire confiance, mm-hmm. qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, par exemple l'histoire de cette fracture, mm-hmm. même au niveau médical.
Oui, parce que c'est ça qui nous empêche, parce que nous ne sommes pas 100% persuadés qu'il s'agit d'une fracture. D'un autre côté, si ce n'est pas ça, on ne sait pas très bien ce que c'est. Mm-hmm. Et on a quand même fait beaucoup d'examens mm-hmm. Qui ne sont pas à 100% clairs. Mm-hmm. Alors, l'examen, oui, mais les résultats,
oui,
l'interprétation des examens. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Mm-hmm. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas été très loin de le faire.
Mm-hmm. Au même moment, à l'étage de réanimation, les traits sont tirés et les visages fermés. Le petit Victor, le bébé arrivé la veille aux urgences, vient de mourir. Il faut aller l'annoncer aux parents.
C'est une évolution naturelle contre laquelle on ne peut pas aller parce que ça ne marche pas. Et c'est une évolution qui est à la limite mieux pour lui.
Compte tenu du diagnostic posé, l'hématome sous-dural, les hémorragies au fond d'œil, d'âges différents, donc plusieurs ouais. épisodes, on est dans l'obligation de mettre ça un petit peu au niveau dans les mains de la justice. Hein. Donc vous êtes les parents, mais il y a une tierce personne qui s'est occupée de. Et c'est nécessaire qu'il y ait une enquête. Donc il y a l'obstacle médico-légal qui va déclencher l'autopsie, mais qui va aussi déclencher une enquête de police.
Le décès de Victor va être au centre de la réunion du mercredi. Toutes les semaines, l'équipe se réunit pendant plusieurs heures pour faire face à tous ces problèmes et évaluer ensemble les situations. Neurochirurgien, assistante sociale, psychologue mais aussi infirmière, chacun donne ici son avis sur l'enfant et sa famille.
Le père, il était quand même limite agressif dans l'entretien avec Harry, mais comme ça pourrait être une réaction normale. Donc à la limite, ça ne me choque pas. Mais c'est vrai qu'il était limite agressif. Il n'était pas très content de tout ce qu'on leur disait.
Leur souci n'est pas comprendre.
Il n'est pas de comprendre.
Ah bon?
Ils m'ont demandé si c'était vraiment indispensable de faire une autopsie. Je leur ai dit que ce n'était pas de notre ressort, que ce n'est pas nous qui décidions, que la justice suivrait son cours et que la justice allait demander une autopsie, qu'on ne maîtrisait pas la chose. Mais donc, derrière la question, il y avait si on pouvait ne pas la faire.
Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être tout de suite, ils n'ont pas envie, mais que de toute façon, à terme, ils auront besoin de savoir et que...
C'est ce que je leur ai répondu, moi. Ouais. Leur question, c'est à quoi ça va servir? Alors, ça peut s'interpréter de deux façons. Ou bien ils ont quelque chose de très très grave à cacher et ils essayent de faire des démarches et ils vont continuer pour empêcher ça, pour qu'on ne découvre pas la vérité. Ça, c'est le scénario noir. Mais il y a aussi peut-être que simplement, ce sont des gens qui ont une certaine culture et ils demandent que va apporter l'autopsie. Alors, ça peut s'interpréter de façon anodine ou de façon gravissime. Hein,
à aucun moment, est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qui est arrivé? Je me demande ce qui est arrivé. Ils n'ont même pas évoqué cela.
Étant donné tout ce qu'on a vu là, il s'agit très probablement d'un enfant secoué à plusieurs reprises par-dessus le marché.
Malgré leurs convictions, il est souvent difficile pour les médecins d'approcher la vérité et de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Le cas de Louis est similaire. Au cours de la réunion, l'équipe est aussi revenue sur son histoire. Sa fracture n'étant pas certaine, le médecin a décidé de le faire sortir, sans en parler au groupe et sans demander l'avis de Marie-Claire, la psychiatre.
Vous avez la responsabilité, Carole et moi, de laisser sortir cet enfant à la maison avec un rendez-vous dans 15 jours avec un scanner et dans un mois avec une nouvelle radio du poignet. Et on s'est dit, on va raconter ça mercredi et on va se faire gronder.
Seule, j'aurais rien fait. Je crois que si vous avez eu envie de faire ça le lundi quand les chats sont partis, c'est quand même que vous pensiez que nous n'aurions pas le même avis.
La radio du poignet, je vous ai raconté. Moi, je ne suis pas convaincu du trauma. Je pousse les radiologues dans leur retranchement et ils finissent par avouer, sous la menace certes, mais par avouer, qu'ils ne sont pas sûrs que c'est une fracture. Et nous, intuitivement, on a le sentiment que cet enfant n'est pas en danger en rentrant à la maison.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai qu'on peut se planter, qu'on est pour. Personne n'a prétendu qu'on se planterait jamais. Deuxièmement, on raconte toujours des histoires où on s'est planté par défaut, jamais par excès. Alors il faudrait raconter les deux histoires, sauf que les autres, elles sont beaucoup plus difficiles à raconter. Des signalements qui ont été faits à tort. Ça existe aussi. Donc on peut se planter dans les deux sens. Tu vois, elle récuse même l'idée. Alors il faut faire des signalements à tous les coups.
Non, comment tu peux dire à tort? Tu dis à tort parce que l'enquête de police n'a rien révélé.
Non, pas du tout. Je parle d'un signalement qui aurait été délétère, un signalement qui aurait tout foutu par terre dans une famille fragile. Que sais-je, j'invente n'importe quoi. Vous me dites qu'on... Non, alors il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. À ce moment-là, il faut faire un signalement à tous les coups. Il faut ouvrir les parapluies et on revient à ce que faisaient les pédiatres avant qu'on commence à travailler ici. C'est vachement difficile.
Signaler une famille à la justice pose à chaque fois un cas de conscience et un problème légal. Mais quelles que soient les décisions prises, tous les enfants qui passent ici doivent revenir en consultation pour un suivi médical, mais aussi psychologique. Enzio a 13 mois. Il en avait 4 lorsqu'il a été secoué. L'enquête n'a pas réussi à trouver le responsable entre la nourrice et les parents. Dans le doute, le juge a décidé de le placer provisoirement dans un centre spécialisé. Aujourd'hui, il est accompagné de son père, de sa grand-mère et de sa puéricultrice.
Ils ne se déplacent pas. Ils roulent plutôt pour se déplacer. Il a dit qu'il a eu un choc, il est tombé, il a eu quelque chose. Et donc, on a dit, bon, ils ont fait une enquête, tout ça. Et donc, après peut-être 2 mois, la nourrice a dit, oui, c'est moi, il a eu un malaise, je l'ai secoué. Et le sang est monté au cerveau. Alors donc, mais elle n'a pas dit tout de suite. Ce qui fait que ça a traîné. Et puis maintenant, il est dans une pouponnière. Et donc, jusqu'à maintenant, on se pose des questions. Quand est-ce qu'on va récupérer, puisque l'enfant a besoin de ses parents? Quand est-ce qu'on va récupérer l'enfant, puisque les parents n'ont rien à voir avec ça?
Il faut pas accuser systématiquement les nourrices. On essaye de comprendre qui a fait quelque chose. Alors, les parents peuvent n'avoir rien fait du tout, même inconsciemment, en réfléchissant, ne pas se rappeler d'avoir fait quoi que ce soit. Et donc, dire que c'est la nourrice, puisqu'il faut que ce soit quelqu'un. Ou bien se sentir responsable de quelque chose, se le cacher, et accuser la nourrice à tort. Donc, on ne peut pas acheter ce récit comme ça, sans réflexion.
C'est le juge qui, du mois d'octobre, n'a pas... Elle a classé aussi, elle a dit c'est bon, toutes les parents sont innocents, il n'y a rien contre les parents. Donc, elle a oublié de faire son travail, c'est-à-dire que leur redonner leur enfant. Oui. C'est tout, c'est simple, c'est tout.
Je ne crois pas, non, je ne crois pas que ce soit comme ça.
Ah ben, c'est comme ça que notre avocat nous a dit, c'est comme ça.
Un tout petit peu plus compliqué.
Ah bon?
Le sens que nous donnons, madame, à ce séjour, c'est en effet que vous puissiez un jour dire à l'enfant, eh bien, nous avons permis que la vérité soit faite. Parce qu'il vous demandera, lui, ce qui s'est passé.
Oui, mais il nous demandera ce qui s'est passé.
Qui m'a fait mal comme ça.
Ah, ça, c'est sûr. Alors là, je vois bien qu'il le dise aussi.
Et pour lui, c'est extrêmement important.
Bien sûr.
De savoir que le nécessaire a été fait.
Mais bien sûr, mais s'il y a quelqu'un, la personne qui l'a fait...
Et que ça ne se reproduise pas.
A dit c'est elle, et je ne vois pas pourquoi qu'on ne s'arrête pas là. On va chercher quoi? On veut séparer de ses parents?
Non.
Pour le faire un petit malheureux? Non. Eh bien, c'est justement ce qu'ils cherchent à faire.
Non. Et nous veillons à ce que les parents gardent leur place auprès de cette
enfant. Oui, je vous écoute pas vous, mais ceux qui sont derrière, je ne sais pas moi. la justice, que la justice fasse attention à un enfant, un innocent, qui n'a rien à voir dedans, et que ses parents non plus, et qu'il fasse quand même ce qu'il doit faire.
C'est vrai.
Je pense qu'au départ, c'était tout à fait justifié de placer cet enfant, parce qu'on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Et en fait, on ne le sait toujours pas. On sait qu'il y a eu un traumatisme assez sévère. C'est quand même très, très grave. Donc, il me semble effectivement très difficile de rendre cet enfant directement à ses parents.
Vous pouvez le déshabiller ? Oui, là. Attention. Quand on prend là,
rien ne se passe. C'est normal.
Un tout petit peu. Et là,
un clownus.
Et là. Il n'essaie absolument pas à se tenir. Hein. Ça.
À quelques kilomètres de Necker, l'hôpital Saint-Maurice, en région parisienne. Après leur hospitalisation, tous ces bébés secoués viennent ici, en rééducation. Beaucoup d'entre eux auront des pronostics d'évolution incertains. Un enfant sur deux aura des séquelles, un sur cinq aura un retard mental important et un profond handicap. Dans ce centre spécialisé, on réapprend les premiers gestes pendant de longs mois. Une passerelle nécessaire entre l'hôpital et la maison.
On travaille beaucoup avec les parents. Hein, les parents sont souvent longtemps séparés de leur enfant, n'ont pas de temps privilégié avec leur enfant dans les services hospitaliers. Donc on essaie ici de leur offrir un lieu où ils peuvent se retrouver avec leur enfant. Cet enfant qui parfois est différent de l'enfant qu'ils ont connu avant, parce que bah, il y a parfois des handicaps, il y a un développement psychomoteur qui est retardé. Donc on essaye avec les parents de leur montrer ce que l'enfant fait, quelles sont ses compétences et comment ils peuvent interagir ensemble. Donc ce qu'on utilise beaucoup, c'est le toucher sensoriel, c'est-à-dire qu'on apprend aux parents à reprendre contact avec leur bébé par un toucher, où il leur touche les jambes. Coucou.
Oui.
Enlève la tétine. Et entre autres, quand l'enfant a une hémiplégie, c'est important de toucher le côté qui est hémiplégié pour que faire comprendre que ça fait partie de son corps, ça fait partie de lui-même. Même si ben, il ne bouge plus.
Oui.
Regarde-toi.
Mais pour tous ces bébés, la rééducation ne s'arrête pas là. Au jardin d'enfants, les éducatrices les réapprivoisent jour après jour.
Un autre aussi, toi ? Non ?
Ouais.
Chez certains enfants, on sent une méfiance et l'adulte doit s'approcher d'eux vraiment avec beaucoup de, je dirais, de délicatesse et vraiment prendre en compte leur état, l'état dans lequel ils arrivent.
Quand on sait exactement qu'un parent, à un moment donné, a eu ce genre de comportement, c'est peut-être plus facile à prendre en charge, parce qu'on sait exactement à quel moment il y a un risque. Et les parents qui ont pris conscience d'avoir à un moment pu être violent avec leurs enfants, on peut faire tout un travail de prise de conscience du besoin de l'enfant, qu'est-ce qui est dangereux pour l'enfant, de quoi il a besoin, à quel moment ça peut déraper. Et là, on peut repartir sur de nouvelles bases.
Est-ce que tu vas l'attraper ? Oh, tu l'as eu !
Adrien, lui aussi, est passé par de longs mois de rééducation avant de retrouver sa maison et sa famille. À l'époque du drame, il avait seulement 2 mois et demi. Ses parents ont été appelés d'urgence parce qu'il avait fait un malaise chez sa nourrice. À l'hôpital, on leur a dit qu'il avait été secoué très violemment. 3 ans après, Adrien garde d'importantes séquelles.
On nous l'a massacré, il venait à peine de naître et il a vécu 2 mois et demi. Et puis bon, bah après, c'est une autre vie pour lui qui a commencé, quoi. C'est une deuxième naissance pour lui. Parce que quand il est sorti du coma, c'est vraiment une deuxième naissance. C'est-à-dire qu'il souriait plus, il tenait plus sa tête, il gazouillait plus. Au début, il savait même plus téter. Il était tout mou, il avait plus de regard parce qu'avec le sang, bah, il voyait plus rien. Puis ses yeux partaient dans tous les sens. Donc. C'est vraiment un autre bébé qu'il a fallu redécouvrir.
Qui c'est qui ?
Il a fallu qu'il rappelle tout, en fait.
qu'il a fallu aussi passer des tas de radios, mais sur tout le corps, pour savoir s'il n'y avait pas d'autres séquelles ailleurs. Et puis c'est là qu'on s'est aperçu que, ben, ils ont vu qu'il y avait une clavicule qui avait été cassée, des arrachements osseux. Donc quand on vous rajoute tout ça, on dit c'est vrai qu'on, ben, c'est clair qu'on on massacre un enfant, quoi. Pour nous, ça a été, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pas seulement le truc anodin, c'est pas possible. C'est le syndrome du bébé secoué, quoi. Et puis que vraiment, vous rattrapez un gamin et puis vous le secouez,
oui,
violemment, quoi, méchamment.
On nous a dit, c'est pas secoué comme ça. C'est secoué très violemment. Secoué comme un prunier, quoi. C'est vraiment, c'est pas la petite secousse anodine. Il a été secoué très violemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il a gardé une grave malvoyance, puisqu'il a en fait qu'un dixième à l'œil droit. Et l'œil gauche ne voit que le jour et la lumière.
Oui, encore, là, c'est pas
donc
trop.
Ça, c'est une des plus graves séquelles qu'il a gardé de ce sang, quoi, qui s'est répandu dans sa tête. Plus une petite hémiplégie à droite. Mais on nous a dit qu'il en récupérerait quand même, au moins au niveau des jambes et au niveau de la main, qu'il pourrait peut-être s'en servir quand même de sa main, sans avoir une motricité très fine. Donc il pourrait quand même se servir.
Alors, la nourrice a été mise en examen. Mais bon, ça n'empêche pas qu'effectivement, ça arrive sur un non-lieu, quoi. Et donc, on fait appel. Parce que, bah, bien sûr, on n'est pas content, on n'est pas du tout satisfait du non-lieu. Et puis, on voudrait... en plus, il y a des éléments dans le dossier qui n'ont pas, qui ont pas été traités, quoi, ou pas traités suffisamment bien.
Dans ce genre d'affaires, il existe rarement de preuves matérielles. Si personne n'avoue, l'enquête aboutit la plupart du temps à un non-lieu. Les dossiers finissent par être classés et personne ne saura jamais ce qu'il s'est réellement passé. L'année dernière, sur 44 signalements effectués par l'équipe de Necker, 13 ont fait l'objet de classements sans suite.